Bonjour, eh bien nous nous retrouvons, Raymond Richard et Michel Bourgès-Monory, pour l'émission Bienvenue en Europe. Alors pour cette émission, eh bien, qui sera la dernière de notre année de radio, puisque notre année de radio, elle coïncide avec l'année scolaire, elle est, disons pour aujourd'hui, riche d'un certain nombre de choses. Alors, par quoi nous commençons? Parce que finalement, il y a beaucoup de choses.
Oui, au mois de mai finissant, nous enregistrons donc le dernier jour de mai, cette émission. Il y a beaucoup d'événements qui se sont tenus au niveau européen, que l'on peut évoquer en ce qui concerne la partie actualité. Et puis, il y a des dossiers, évidemment, de fond qui subsistent, et on y reviendra certainement après la reprise d'été, après les vacances. En ce qui concerne l'actualité européenne,
alors parlons du budget.
Au niveau du budget,
c'est important.
Voilà, le budget de cette année a été
augmenté
de 3%, ce qui n'est quand même pas négligeable, avec une part importante en ce qui concerne le programme Erasmus, qui se voit octroyer plus de 10% d'augmentation.
Alors, moi, je voudrais insister, parce que le budget d'Europe... Allez, dites-nous les chiffres.
Mais là, cette année, c'est 166 milliards, si je ne me trompe pas, d'euros.
Alors, quand on écoute ces chiffres, on dit « Ah là là, l'Europe, quelle somme !» Alors, je rappelle quand même que c'est moins de 3 fois le déficit de la SNCF. Parce que finalement, on dit « Ah bah oui, alors, le déficit de la SNCF, bah, après tout, pourquoi le gouvernement ne peut-il pas tout prendre ? » Eh bien voilà, quand on prend en charge le budget de la SNCF, ou les 35 milliards, puisque là, il est question de prendre 35 milliards, eh bien ça veut dire que là, on prend exactement 20% du budget d'Europe. Alors, vous additionnez au budget de la SNCF le budget de la sécurité sociale, le budget des routes, le budget de tout ce que vous voulez, et vous voyez que le budget d'Europe, finalement, c'est quand même très peu. Et avec ce très peu, l'Europe fait beaucoup, et moi je souhaiterais, et là je dis franchement, qu'on soit aussi efficace avec l'argent des contribuables en France qu'on l'est à Bruxelles. Voilà. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais
très bien.
C'est
bon. Non, vous avez tout à fait raison. Et j'ajoute là-dessus, pour que nos auditeurs se rendent compte, le budget européen ne représente que 1% du PIB des États membres de l'Union européenne. Ce 1%, c'est absolument ridicule par rapport à ce que représente chacun de nos États en ce qui concerne notamment les dépenses publiques.
Alors, continuons à les comparaisons. Le budget français, c'est 46% du PIB français.
Exactement.
Donc là...
Là, on se rend compte. Et si l'on prend ces chiffres, il faut aussi avoir en mémoire que 90% du montant de ce budget européen repart quasiment automatiquement dans les mains des États qui se sont octroyés, parce que c'est eux qui prennent la décision, rappelons-le, avec le Parlement européen qui doit donner son aval, mais c'est une proposition de la Commission, hein, une décision du Conseil des ministres et des chefs d'État, avec l'accord du Parlement, qui lui ne peut dire que oui ou non, mais il est bien obligé de dire oui, autrement il n'y aurait pas de budget. C'est très important de le souligner là aussi, parce que les montants en question sont absolument infimes par rapport à ce qui se passe au niveau des États. Et l'un des grands problèmes, c'est que, par exemple, les grands volets, ce sont les fonds structurels et la politique agricole commune. Mais c'est tellement déjà mis dans les mains des États que 90% effectivement de ce budget repartent dans les
États qui font
de manière quasiment automatique. Donc il ne reste plus que 10% de ce petit 1%. Alors c'est là-dessus que la Commission essaie de proposer, de trouver un peu des marges sur les marges, par exemple pour le budget de l'éducation, en particulier Erasmus, on pourrait y revenir tout à l'heure. Et donc les proportions sont absolument ridicules et il faut bien avoir ça en tête et vous avez tout à fait raison de l'avoir souligné. Les citoyens européens ne mesurent pas que l'Europe en fait ne représente quasiment rien au plan budgétaire. Et c'est bien aussi pourquoi il y a des réformes de l'Europe qui sont nécessaires, notamment si on regarde au niveau géopolitique, mais qui sont nécessaires en particulier sur la question de créer des ressources propres à l'Europe. Il y a plusieurs possibilités,
plus d'Europe bien organisée,
notamment au plan financier, monétaire, etc. Là, on pourrait
revenir. Moi, je voudrais revenir là-dessus parce que vous avez évoqué la PAC. Alors, par exemple, lorsque des entreprises agricoles sont aidées par la PAC, antérieurement, au niveau européen, eh bien, vous pouviez consulter dans les dossiers européens qui recevait de l'argent. Et par exemple, eh bien, vous pouviez voir que telle ferme de tel endroit, soit la ferme, je ne sais pas moi, des 50 000 vaches en Holstein dans la Pologne, mettons, eh bien, recevait telle somme. Eh bien maintenant, à cause de la manière dont fonctionnent les États, cette publicité ou cette clarté, cette transparence n'existe plus. Et ça n'est pas une décision de l'Europe, c'est une décision des États. Ça veut dire en fait que la politique agricole commune qui est en charge, qui est vraiment en charge par Bruxelles, mais qui est déléguée aux États, dans certains cas, eh bien, la transparence qui avait été initiée par l'Europe a été gommée par les États. Et je crois que là, il faut quand même être clair, parce que souvent on dit « Ah, l'Europe se... » Bon, eh bien, l'Europe est transparente et je crois que c'est peut-être important à cette époque où on parle des nouvelles fabriquées, des fausses news, des fake news, appelez-le ça comme vous voulez, mais en tout cas, c'est faux. Comment on érige ce qui est faux, le mensonge, en règle? Eh bien là, l'Europe, c'est peut-être un modèle de transparence. Alors, au moins, c'est la réalité. Bon, alors il y avait aussi, dans ce que j'ai regardé, puisque nous parlons des finances, eh bien, souvent, on nous dit, comment se fait-il que la fiscalité en France est beaucoup plus lourde que la fiscalité en Pologne, par exemple, puisqu'on nous a beaucoup bassinés avec le plombier polonais. Alors, eh bien, actuellement, la Commission propose une TVA qui serait payée en finale, dans les pays où on achète les produits, mais une TVA qui serait identique. Parce qu'actuellement, nous sommes toujours dans un système transitoire. J'aimerais que vous nous parliez un peu de ça.
De manière très simple, la TVA a été plus ou moins harmonisée autour de plusieurs taux au niveau européen. Mais c'était à titre provisoire que ceci avait été institué autrefois. Donc, il est proposé au niveau communautaire, au niveau de la Commission européenne. Rappelons donc que c'est la Commission qui propose, ce n'est pas elle qui décide. Elle propose cette fois-ci de faire un pas en avant et c'est de ne plus être dans une période transitoire en ce qui concerne les impositions indirectes, mais notamment d'empêcher des concurrences déloyales entre les États. Je parle de mémoire, mais lorsque l'on a des taux tellement différents entre l'Irlande et la France, par exemple, une fiscalité.
Les sociétés vont s'installer en Irlande.
Eh bien, exactement. Donc il y a une concurrence déloyale en ce qui concerne les États, en ce qui concerne les systèmes d'imposition. Ceci fait partie de projets de réforme qui sont sur la table depuis de longues dates. Le président français Macron a fait aussi des propositions, non pas directement en ce qui concerne la TVA, mais en ce qui concerne une harmonisation fiscale, notamment avec les droits des sociétés, etc. Donc le problème fiscal est un problème numéro un. Il y a un marché unique, mais il y a des droits, des impositions, des droits fiscaux différents en fonction des États. Et donc une harmonisation dans ce domaine serait absolument à rechercher pour le bien de tous. Mais là aussi, à une nouvelle fois, nous avons affaire à des États qui, au lieu s'arc-boutent sur leurs biens, mais à leur propre détriment en fin de compte. Et c'est cette prise de conscience qui doit être absolument mise en avant par tous. Et évidemment, il faudrait que les citoyens se rendent bien compte que le L'Europe, là aussi, n'est pas le problème, mais c'est la solution. Nous sommes dans un seul marché,
entre autres,
avec en plus une monnaie unique pour déjà une grande majorité d'États de l'Union européenne. Donc il y a d'autant plus nécessité d'arriver à cette harmonisation fiscale, droit du travail, etc., etc.
Alors, en ce qui concerne la TVA, voilà par exemple une des propositions. Hein. Au lieu d'avoir 408 articles dans la loi pour des entreprises, des budgets nationaux, il n'y en aurait plus que 200. Donc déjà, on divise par deux le nombre d'articles de loi. Je ne sais pas si vous voyez la simplification que ça fait, parce que si vous observez toute la paperasserie que vous avez dans vos différentes démarches, eh bien vous voyez déjà que s'il y en a moitié moins, c'est quand même pas mal. Ensuite, la fraude à la TVA devrait être réduite
tout
et cela
fait.
Devrait rapporter 50 milliards d'euros par an.
Ouais.
Alors 50 milliards, hein, tout à l'heure par rapport... Eh bien, c'est exactement la dette du chemin de fer.
Exactement.
Bon, donc,
là aussi, on a
j'ai rien contre le chemin de fer, mais il se trouve que ça, qu'on en parle beaucoup en ce moment. Eh bien, voilà. Une simplification. Alors, la question, c'est est-ce que les États vont accepter cette simplification? Est-ce que chacun des États? Donc là, je crois aussi que c'est véritablement important de regarder de près comment les choses fonctionnent. Nous allons faire une pause avant de reprendre. Nous sommes toujours dans l'émission Bienvenue en Europe sur Radio Grand Ciel. Et bien, je voulais commencer cette deuxième partie d'émission par quelque chose dont vous avez dû vous rendre compte pour peu que vous ayez un ordinateur, un smartphone, etc. Puisque les opérateurs avec lesquels vous êtes en relation vous demandent, en ce qui concerne vos données, qu'est-ce qu'on va faire? Donnez-nous quelques explications.
Oui, il y a la protection des données, le règlement général sur la protection des données a été mis en place grâce à une action européenne, et ceci doit être souligné. Et donc l'effet, depuis le 25 mai exactement, avec des règles européennes qui font que dorénavant, face notamment aux géants de l'Internet et des pratiques que l'on a pu voir, dont certaines sont dévoyées, ou... dès que l'on utilise Internet, nos propres données personnelles sont diffusées, rachetées, etc., pour essayer de faire tout ce que l'on peut imaginer, y compris même d'ailleurs de manière extrêmement négative si l'on prend en considération même le terrorisme. Donc il y a des dangers du fait de la numérisation, du fait de l'usage d'Internet, et donc l'Europe a une nouvelle fois pu marquer sa différence et donc reprendre les choses en main sur ce plan-là. Et je crois que c'était effectivement une des choses à souligner de ce mois de mai. Grâce à l'Europe, il y a maintenant, dorénavant, cette protection qui est donnée pour chacun. Et c'est à chacun de répondre lorsqu'il utilise un site, s'il désire ou non que ses données personnelles doivent rester sa propriété ou non.
Et vous
donc,
pouvez répondre
voilà
que
encore
vous
un
voulez
point.
Que vos données personnelles restent votre propriété.
Tout à fait.
Et vous avez vu, si vous allez sur n'importe quel site, on vous demande est-ce que vous voulez bien qu'on puisse utiliser vos données personnelles? Eh bien, voilà, là, c'est aussi un résultat tangible de l'action européenne. Alors, il y a aussi quelque chose qui me paraissait important. Dans l'Europe, c'est l'Europe pour la jeunesse et ça va nous amener...
Tout à fait.
Cette conférence de M. Jean Arthuis à
oui.
Chartres. Alors,
oui.
L'Europe pour la jeunesse, on veut la renforcer. On sait qu'Erasmus est un succès. Parlons un peu d'Erasmus pour les apprentis.
Voilà. Alors tout ceci est à mettre en parallèle avec la nouvelle proposition de la Commission pour renforcer précisément cette coopération au niveau de la jeunesse. Pour une fois, à Chartres, donc en Eure-et-Loir, il s'est passé quelque chose qui concerne directement nos relations avec l'Europe, à savoir que le mouvement européen d'Eure-et-Loir a organisé une table ronde qui s'est tenue au centre de formation des apprentis interprofessionnels d'Eure-et-Loir, à Chartres, le 25 mai exactement, avec M. Jean Arthuis, qui est un ancien ministre, qui a été ministre de l'économie et des finances autrefois, mais qui est surtout actuellement président de la commission des budgets du Parlement européen, et qui est un poste extrêmement important parce qu'il a pu faire valoir précisément au plan européen toutes les nécessités financières, fiscales, etc., dont on a parlé dans la première partie de cette émission.
Alors, qu'est-ce qui va se passer
pour les... En ce qui concerne
les...
voilà. au niveau de la jeunesse, donc il a été chargé par le gouvernement de remettre un rapport, et ce rapport est fait état de 16 propositions, 8 au niveau européen et 8 au niveau national, pour essayer de favoriser l'échange des apprentis, les faciliter en ce qui concerne les écoles professionnelles au niveau européen. Et donc, il a proposé de renforcer à travers le programme Erasmus, de multiplier d'abord par 3 le budget Erasmus pour que l'on puisse permettre à ces jeunes apprentis de faire un séjour à l'étranger. Il y a, à cet égard, en ce qui concerne la durée de mobilité, toute une série de propositions. En ce qui concerne surtout, et c'est là où évidemment il y a beaucoup à faire, c'est en ce qui concerne le statut des apprentis par rapport à leur employeur et par rapport à la sécurité sociale qui les couvre. Donc il y a, parce que là, la situation évidemment en ce qui concerne les apprentis est différente des étudiants. Les étudiants sont couverts par leur
le système d'assurance de leurs parents, leur système personnel.
Et donc il y a toute une série de propositions qui ont été faites. Surtout, moi, ce que j'ai retenu de cette réunion, c'est au-delà de toutes les propositions techniques qui ont été mises sur la table, c'est qu'il y a eu des témoignages à la fois parce qu'il y avait beaucoup d'invités qui représentaient la région centre, les chambres consulaires, chambres de commerce, d'industrie, des métiers, chambres d'agriculture, les apprentis d'Auteuil qui étaient là. Il y a eu des témoignages, et c'est ça qui était très intéressant, c'est ce qui m'a le plus frappé, c'est des témoignages de jeunes qui ont eu la chance de pouvoir faire un séjour de plus ou moins longue durée à l'étranger, et ils ont pu témoigner que ça les a complètement transformés, non seulement au niveau de leur talent personnel, parce qu'ils ont pris une confiance en eux extraordinaire, mais surtout ça leur a, et ça l'est aussi au niveau des langues, et au niveau également de leur carrière professionnelle, ça leur ouvre beaucoup de perspectives. Il faut remarquer d'ailleurs, et M. Arthuis l'a bien souligné, que lorsque, par rapport à la problématique de l'emploi en ce qui concerne les jeunes, ceux qui font Erasmus sont beaucoup moins touchés par les problèmes de chômage. Et les pourcentages, là, sont véritablement très, très, très significatifs. Donc, il a surtout souligné le fait qu'il faut remettre l'apprentissage professionnel comme une qualification tout à fait importante, comme d'ailleurs cela existe dans un certain nombre de pays. Donc au niveau français, on a beaucoup de choses à rattraper. En ce qui concerne l'Eure-et-Loir plus précisément, là aussi on est très très loin de la moyenne nationale. Donc beaucoup d'efforts doivent être là aussi entrepris pour que précisément ces jeunes puissent bénéficier un maximum d'avantages dans le cadre de ces propositions.
Alors, je voudrais ajouter, par exemple, les jeunes horticulteurs du Château des Vaux sont reconnus sur le plan, sont tellement reconnus que, par exemple, un certain nombre d'entre eux trouvent du travail, en Angleterre notamment, et vous connaissez les jardins anglais, c'est quand même quelque chose qui est tout à fait intéressant. Eh bien, on a au château des Vaux, en Eure-et-Loire, un milieu de formation qui est tel qu'un certain nombre de meilleurs ouvriers de France sortent de cette institution. Alors là, ça, je ne veux pas faire de pub pour le château des Vaux, mais il y a au moins une 18 à 20 formations qui sont proposées. Et il en va de même pour l'apprentissage, les sections techniques. Souvent, on dit les sections techniques, mais il y a des sections techniques en France et des formations qui sont de très, très haut niveau. Et il faut que ceux qui font ces sections techniques se défendent parce que ce sont des sections qui sont, dans certains cas, plus sélective que des sections S ou ES ou psycho. Hein, c'est clair que là, quand on méprise l'enseignement technique, je crois qu'on fait une profonde erreur, d'autant plus que ces gens des sections techniques sont souvent de bons professionnels. Alors, c'est vrai qu'il y a des problèmes différents. Il y a faciliter l'apprentissage de leur langue. Il y a faire reconnaître les formations qui sont prises ici et là. Et on a une proposition, c'est d'élargir le système que l'on a utilisé pour reconnaître que le médecin de Roumanie ou le dentiste d'Espagne est aussi bon que le vôtre. Et peut-être avez-vous fait partie de ces gens qui ont fait du tourisme sanitaire pour aller se faire soigner les dents ou se faire soigner ailleurs. Eh bien, on reconnaît maintenant entre les médecins des compétences ici et là. Il serait intéressant de reconnaître que l'artisan, le boucher, le fleuriste, puisque on a évoqué les sections d'horticulture du Château des Vaux, sont aussi compétents. Là, je crois qu'il y a vraiment une revalorisation de l'enseignement technique et ça me paraît important. Merci, Monsieur Arthuis, d'être venu présenter cela en Eure-et-Loire. Mais il faut, chers auditeurs, que vous... Si vous connaissez au moment de l'orientation scolaire des jeunes qui veulent faire de l'apprentissage, qui veulent faire des sections techniques, il faut savoir qu'il y a là des possibilités d'emploi et que les gens qui ont une bonne formation sont bien payés. Parce oui. qu'effectivement, le grand problème de l'enseignement technique et des techniques, on se dit oui, mais c'est mal payé. Quand on est un bon artisan, eh bien, ou un bon professionnel, on est recherché et bien payé. Eh bien, pour la dernière partie de l'émission, on va aussi parler de l'actualité qui nous inquiète, en Italie notamment. Mais bon, quelque part, je suis optimiste parce que chaque fois qu'il y a eu une très très grosse crise, finalement, les gens se sont dit « Oh là là, non, on va pas prendre le risque de tout casser ». Alors, est-ce qu'on aura ce sentiment de survie encore ?
Ben écoutez, il faut l'espérer parce que il y a une problématique qui fait suite aux dernières élections italiennes. Tout le monde a vu dans les médias ce qui s'est passé avec la constitution éphémère d'un gouvernement à la fois d'extrême droite et d'extrême gauche en Italie, qui a finalement n'a pas pu être mise en place par l'action du président de la République italienne, qui a fait valoir que dans le programme des deux partis qui ont acquis la majorité en Italie, que ces deux partis n'avaient pas évoqué la sortie de l'Italie de l'euro, et c'était l'argument pour refuser la nomination d'un ministre anti-euro comme ministre de l'économie et des finances dans le nouveau gouvernement envisagé par ces deux partis extrêmes.
Donc, alors disons
c'est simplement que l'Italie est la troisième économie de la zone euro. C'est quelque chose d'extrêmement important, et là on n'est pas du tout dans le cas grec, rappelons-nous, où il y a eu le problème de la dette grecque et qu'à l'époque on s'est demandé si le système euro allait tenir en place. Là maintenant avec l'Italie, c'est autrement plus important. Donc le regard que l'on peut porter sur la manière dont les Italiens et leur gouvernement veulent agir dans le cadre de l'Europe, puisque, qu'on le veuille ou non, ils sont en Europe. Donc là, c'est extrêmement important que soient mises en place, que soient clarifiées surtout les positions. Alors maintenant, ils s'orientent vers de nouvelles élections. On va voir si c'est une élection pour ou contre l'euro, puisque ça sera bien cela qui
oui,
sera.
Mais
ou
je...
alors, parce que maintenant les derniers rebondissements font que, bon, peut-être un nouveau gouvernement qui n'envisagerait plus cette fois-ci de mettre en avant cette sortie de l'euro serait éventuellement à mettre en place. Donc dans les jours qui vont venir, dans les semaines qui vont venir, on y verra sans doute plus clair, mais soyons quand même attentifs à cela. Tout en soulignant qu'un dernier eurobaromètre, donc un sondage au niveau européen, a montré que 60% des citoyens estimaient, au niveau européen, estimaient que l'adhésion de leur pays à l'Union européenne est tout à fait positive. Et ceci en dépit précisément du Brexit, en dépit de toute une série d'événements que l'on connaît. Donc au niveau de l'Italie, espérons que la raison l'emportera, et que surtout le bon sens l'emportera.
Et l'intérêt, c'est l'intérêt.
Parce que l'intérêt, un pays qui est super endetté, comme l'Italie, dépend très largement de montrer qu'il sait gérer correctement son pays au sein de l'euro. Qu'on le veuille ou non, si on veut partager la même monnaie, il y a des avantages, mais on ne peut pas prendre que les avantages et gérer d'une manière absolument invraisemblable, en préconisant par exemple d'augmenter de 100 milliards d'euros la dette du pays qui est déjà ultra endetté. Donc c'est le premier point sur l'Italie. Deuxième point par rapport à l'international, c'est le 1er juin, c'est-à-dire demain, le jour où nous enregistrons cette émission, 1er juin, que sera annoncé par M. Trump, peut-être par un tweet, parce que c'est sa manière d'agir d'habitude, de décider de taxer l'Europe sur les aciers et l'aluminium. Alors là aussi, l'Europe est prête. Elle a préparé une contre-offensive, en quelque sorte, avec des taxes dans l'autre sens qui seraient à proportion de ce que l'Europe perdrait en fonction des nouvelles taxes américaines. Donc on taxerait des produits américains qui viendraient ici en Europe dans les mêmes proportions que eux nous taxeraient. Mais on voit bien que c'est complètement invraisemblable ce qui se passe au plan international. Monsieur Trump remet en cause le multilatéralisme dont les États-Unis ont été un des éléments porteurs au départ et qui, qu'on le veuille ou non, permet de réguler plus ou moins bien, il faut bien le reconnaître, mais là on peut améliorer les choses toujours, mais en discutant au plan international, il y va de la sécurité mondiale, du commerce mondial. Une guerre commerciale a commencé par ses propres alliés entre Américains et Européens, et serait un désastre. Donc voilà où l'on en est. On verra bien ce qui va se passer, mais là aussi, la leçon à en tirer, c'est que si il faut plus d'Europe, il faut que l'Europe soit unie. Il n'y a pas d'autre solution pour pouvoir discuter d'égal à égal avec le monde qui nous entoure.
Alors pour terminer, quand même, quelque chose de positif, c'est que les villes américaines, à 70%, sont favorables aux accords de Paris sur le plan de l'environnement et donc à tenir compte des autres. C'est quand même une bonne nouvelle, non ? Alors, tenir compte des autres, c'est la devise européenne. C'est sur cette envie d'Europe que je vous dis bonnes vacances, bonne semaine à tous. Au revoir.